Les mots de la culture, une émission proposée par Michel Théron.
Bonjour à tous. Nous continuons cette réflexion sur la culture générale à partir de mon livre « Comprendre la culture générale » qui est paru chez Ellipse à Paris il y a un certain nombre d'années, mais qui est encore disponible en librairie. Alors, nous avions analysé les archétypes la dernière fois. Nous en sommes au chapitre 5 de cet ouvrage qui est intitulé « L'homme symbolique ». Nous dressons le portrait de l'homme symbolique. Nous voyons comment il se constitue. Nous avions analysé les archétypes qui structurent l'inconscient collectif à partir des idées de Carl Gustav Jung et qui se projettent justement dans toutes nos vies. Alors, je vais prendre quelques exemples pour vous montrer que les mythes, par exemple, nous préfigurent et mettent en scène les scénarios auxquels nous sommes confrontés dans toutes nos existences. Par exemple, supposons qu'un homme soit névrotiquement ou même psychotiquement fixé sur la figure de sa mère, figure qui le maintiendrait sous sa dépendance et qui empêcherait son autonomie, comme dans le film d'Hitchcock, Psychose. Eh bien, n'est-ce pas là le mythe d'Achille qui était vulnérable au seul endroit de son corps où sa mère l'avait tenu, vous voyez ? Bon, dans ce mythe semble préfigurer quelque chose qui nous arrive dans chacune de nos vies. Deuxième exemple, prenons le cas de cette angoisse qui s'éveille dans l'homme quand il s'ouvre à la connaissance et qu'il se tourmente à proportion que son esprit scrute des horizons de plus en plus éloignés. Un peu, figurez-vous, l'image d'un compas. Plus la pointe s'enfonce profondément, plus la branche extérieure décrit un cercle éloigné. Alors, l'Ecclésiaste nous dit que l'on augmente sa connaissance, on augmente aussi sa capacité de souffrir. Vous voyez, hein, dans la Vulgate, hein, « Qui auget quientiam, auget et dolorem », vous voyez, hein. Alors, vous savez, évidemment, il en est du bonheur comme des montres. Hein, ce sont les moins compliqués qui se détraquent le moins. Hein. Bon, alors, l'angoisse, justement, toujours renaissante, qui s'éveille dans le cœur de celui qui s'ouvre à la connaissance, eh bien, n'est-ce pas, alors, le vautour qui dévore le foie toujours renaissant de Prométhée. Et Prométhée peut être vu comme un intellectuel, puisqu'il apporte le feu aux hommes, le feu qu'il dérobe aux dieux, justement, pour éclairer les hommes. Prométhée est un philanthrope, c'est-à-dire quelqu'un qui aime les hommes et qui déteste les dieux, hein, et qui veut aider les hommes. Donc, intellectuel, eh bien, il va souffrir par cette inquiétude figurée par le vautour qui lui dévore le foie. « Je n'aime pas l'homme, disait Gide, j'aime ceux qui le dévorent », c'est-à-dire l'inquiétude intérieure. Et de la même façon, le fameux serpent de la Genèse qui va ouvrir les yeux de nos premiers parents, qui va les faire s'éveiller à la connaissance, goûter aux fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce serpent peut être vu comme une métaphore de l'esprit logique. Vous voyez, hein, c'est ainsi que Paul Valéry interprète cette histoire dans son poème « Ébauche d'un serpent ». Vous voyez ? Alors, nouvel exemple. Figurez-vous un homme qui aurait perdu un être cher et qui resterait névrotiquement fixé à ce passé de l'être aimé qu'il a perdu, hein, et qui n'accepterait pas le travail du deuil. Alors la mort s'emparerait de sa vie, il serait incapable de se penser positivement dans le futur, et sa mémoire frapperait le présent d'inanité. Il y aurait en lui victoire des forces de mort sur les forces de vie. Eros, le désir de vivre, serait vaincu par Thanatos, le désir de mourir. Alors cet homme serait un mort vivant, et l'être qui le tourmenterait ainsi serait son vampire, Le vampire, c'est celui qui n'est pas encore mort. Nosferatu, si vous voulez. Hein? Bon, alors, cette histoire, c'est le sujet d'un film de Juan Buñuel qui s'appelle Léonore, d'après Ludwig von Tieck, vous voyez. Donc, vous savez que la vie, elle nécessite toujours plus ou moins l'oubli. Et la mémoire, comme il se voit dans un célèbre tableau de Magritte, c'est une blessure, c'est une tache de sang sur la tempe de cette figure chez Magritte. Hein. Il faut donc qu'elle se referme, cette mémoire, ou du moins se cicatrise. Hein. Il y a un nécessaire travail du deuil hein, qui fait qu'en Afrique, on dit qu'il faut tuer le mort, c'est-à-dire le transformer en ancêtre, vous voyez. Alors, il faut séparer le monde des morts et le monde des vivants. Alors, aux morts, on affectera un jour, par exemple chez nous, en monde chrétien, le lendemain de la Toussaint. Mais dans la Grèce antique, il y avait la fête des Entestéries, hein, où on se dévouait aux morts, on pensait à eux. Mais tout le reste du temps, il était nécessaire de les oublier pour continuer à vivre. Donc, éviter la vampirisation par les morts, être capable de continuer de vivre, justement, est nécessaire. Et la passion exclusive peut mener à ce refus de la vie. Voyez le film de Truffaut, Adèle H, hein, ou bien encore Dracula, le film de Coppola, vous voyez. Hein, il a perdu Dracula à une femme qu'il aimait, et alors par réaction, il va se comporter en vampire, mais il vit toujours dans le souvenir de cette femme perdue. Donc, pareillement, on pourrait dire la même chose pour les revenants. Hein, ce sont les âmes errantes qui viennent nous hanter. Hein, et il n'y a pas de repos, disait Freud, jusqu'à ce que soit trouvée résolution et délivrance. Alors, vous voyez, par tous les exemples que je viens de dire, que les mythes permettent de dresser le portrait ou la figure de l'homme symbolique. Alors, comment peut-on s'orienter dans cette géographie qui est bien complexe, hein ? Quelles en sont les structures essentielles ? Et d'abord, quelle en est la fonction ? Fonction des constructions symboliques. Alors, je dirais que la rencontre avec soi-même est l'épreuve la plus rude que l'homme puisse affronter. Alors, il y échappe tant qu'il a des images symboliques, vivantes, dans lesquelles il va projeter tout l'inconnu qu'il y a en lui. Hein. Par exemple, dans la figure du diable, qui est extrêmement précieuse, l'homme va projeter son obscurité. Tant que le diable erre à l'extérieur de l'homme, comme un lion cherchant qui dévorer, comme dit le psaume 21, hein, dans la Vulgate, « Tamquam leo quaerens quem devoret hein, », comme un lion cherchant qui dévorer. Et cherchant qui dévorer, c'est un roman de Luc Estan. Hein. Alors, tant que le diable est à l'extérieur, l'homme est dispensé de le chercher en lui-même. Parce qu'il est commode d'attribuer à un être extérieur ce qui est en nous-mêmes. Alors, avec quelle volupté, par exemple, voyez comment les hommes se précipitent sur les faits divers criminels dans les journaux ou dans une certaine presse, hein. En lisant les exploits des assassins, les hommes vivent par procuration. Ils se consolent de n'avoir pas le courage de faire comme eux. Par exemple, quelqu'un qui détestera sa femme, ou bien ses proches, ou bien ses voisins, même sans le dire ou sans se le dire à lui-même, eh bien, il va se délecter aux crimes sanglants, aux exploits des gangsters, etc. Et de là vient le prestige des bandits, des ennemis publics, dont le nombre est impressionnant. Hein. Pourquoi ? Parce que ces gens-là, les bandits, les gangsters, font ce qu'on n'ose pas faire soi-même. Et on les admire pour cela. Voyez par exemple le film Bonnie and Clyde d'Arthur Penn. Hein. Vous avez aussi l'éloge du bagnard chez Rimbaud, hein. L'éloge du mauvais garçon chez Genet, chez Pasolini. Voyez, il y a aussi la fascination pour les sœurs Papin qui ont assassiné leur maîtresse. Voyez un écho de cela dans Les Bonnes de Jean Genet ou bien dans La Cérémonie de Claude Chabrol. Vous voyez, c'est un écho plus éloigné. Hein. Mais enfin, c'est la même chose. Hein. À assassiner ses maîtres, justement, les récits incarnent cela. Hein. Et puis, on est fasciné par ces récits parce qu'ils incarnent incarne quelque chose que dans la vie réelle on ne pourrait pas faire. Alors vous voyez que les constructions symboliques peuvent avoir de la même façon une fonction, je dirais, cathartique ou une fonction d'exutoire, un peu analogue à celle des spectacles où les pulsions humaines sont canalisées dans une extériorisation ritualisée, vous voyez. Alors on sait que pour Aristote, par exemple, la tragédie avait pour fonction de purger les hommes, purger au sens strictement médical, hein, de deux sentiments, la crainte et la pitié, qui étaient considérés comme dommageables pour ce qui est de les éprouver dans la vie réelle. Alors, au théâtre, donc, on se délivrait de crainte et pitié sans fâcheuses conséquences. C'est ce qu'on appelle la catharsis. Alors, katairein, ça veut dire, avant de signifier purifier ou purification esthétique, signifier tout simplement purger. Et catharsis, c'était la purgation. Il y avait donc une fonction thérapeutique des spectacles dès la Grèce antique, et elle demeure encore, cette fonction thérapeutique, dans les pays latins. Alors, il y a quelque chose qui m'a toujours frappé. Pourquoi Rousseau, par exemple, n'a rien compris à cette fonction ni au spectacle? Eh bien, c'est parce qu'il était protestant, à mon avis, hein. Et le discours sur les sciences et les arts de Rousseau accuse les arts de développer l'immoralité. Et sa lettre à D'Alembert sur les spectacles, hein, toujours de Rousseau, hein, fait de la même façon, donne les mêmes conclusions pour le théâtre, si vous voulez. Mais je pense que là, il y a une espèce d'angélisme protestant qu'il faut problématiser. En effet, on ne doit pas tenir le miroir pour responsable de ce qu'il reflète, hein. Et il ne faut pas confondre la mise en scène, la représentation des choses et le facteur déclenchant lui-même. Vous savez tous que le thermomètre n'est pas responsable de la fièvre, hein, et on ne fait pas partir la fièvre en cassant le thermomètre. Donc, cette fonction cathartique de l'art, à laquelle je tiens beaucoup, n'est pas partagée malheureusement par tout le monde. Alors j'ai cité Rousseau, mais déjà, Platon ne l'avait pas comprise, cette fonction, puisqu'il condamne la tragédie dans le Gorgias et il condamne les poètes dans la République. Il chasse les poètes de la vie de l'État. Hein. Il y a là ce que j'appellerais alors un totalitarisme angélique. Et je pense que cet angélisme ne tient pas compte de la réalité humaine. Dans les pays luthériens, par exemple, on croit que les jouets de guerre provoquent l'agressivité et la violence. Alors, à mon avis, c'est une position naïve. Ils ne créent pas l'agressivité, ils permettent de la mimer magiquement, hein. La télévision, elle est dangereuse pour les enfants, non pas parce qu'elle montre la violence, mais parce qu'elle la banalise et parce qu'elle l'irréalise en ne montrant qu'elle, hein. Une chose est de montrer épisodiquement la violence ou de la ritualiser, et autre chose est d'habituer à la violence en désamorçant sa représentation, d'insensibiliser le spectateur. Parce que la violence, elle existe toujours dans l'homme, hein. La seule différence entre un homme honnête et un criminel, c'est que le criminel a commis un crime. Eh bien, monsieur de la Palice, s'il disait cela, il aurait raison, et il ne serait pas si sot que l'on croit. Alors, chez nous, l'idée de péché originel est peut-être le reflet de cette vérité anthropologique. Cette idée, qui n'existe pas dans l'Évangile, hein, et qui nous vient de Saint-Augustin, est bien moins importante dans les pays protestants ou dans les pays septentrionaux, les pays de l'Europe du Nord, que dans les pays catholiques ou les pays latins. Et on dit que Sartre, au retour d'un voyage aux États-Unis, aurait dit qu'il ne s'entendrait jamais avec des gens qui ne croient pas au péché originel. C'est ce qu'aurait dit Sartre, paraît-il, hein. Alors, je sais bien qu'une représentation peut être dangereuse, une représentation violente, mais tout dépend non pas de ce qu'on représente, mais de la façon dont on le représente. Le problème est le suivant. Est-ce qu'il y a une complaisance à montrer la violence ou non, hein? Une représentation, elle peut être instituante, au sens de Pierre Legendre ou de Régis Debray, par exemple, dans ses textes sur les images, hein, ou au contraire déréalisante et aliénante par l'anesthésie ou la désensibilisation qu'elle cause, vous voyez, hein ? Alors, je pense que lorsque Guy Debord met tout ce qui concerne l'image sous le nom générique de spectacle, il faudrait préciser quand même, hein, et voir qu'il y a des différents types de spectacles. Alors, je pense par exemple aujourd'hui à la condamnation des corridas, qui sont familières aux pays latins et qui sont jugées archaïques aujourd'hui au nom d'un modernisme angélique. Hein. Actuellement, c'est un sujet très brûlant. Il y a beaucoup de mouvements qui sont contre les corridas, et ça va dans tout le spectre politique, hein, de l'extrême gauche à l'extrême droite, hein, par exemple de Théodore Monod à gauche à Brigitte Bardot à droite. Hein. Alors on dit qu'il s'agit de tortures infligées aux animaux. Mais c'est une position, à mon avis, naïve. Alors là, je m'excuse par avance auprès des auditeurs que cela pourrait choquer, mais il me semble que ces spectacles ne créent pas la violence ou le mal, ils le miment et ils l'exorcisent. Hein. La culture n'exige pas l'aveuglement. Hein. Le sang qui coule est inséparable et constitutif de la vie. Hein. Une corrida, c'est peut-être une boucherie, comme disent ceux qui lui sont hostiles. Mais qu'est-ce que c'est qu'un accouchement ? Un accouchement, disait Prévert, c'est du sang dans des draps blancs. Hein. Donc il y a ici une hypocrisie. Hein. Étrange chose que l'homme, disait Montaigne, chacun fuit à le voir naître et chacun suit à le voir mourir. C'est-à-dire que quand l'homme naît, personne ne veut le voir. Hein. Par contre, lors d'un enterrement, vous avez une foule qui se masse pour suivre le cortège, vous voyez. Hein. Donc, il ne faut pas oublier que dans les campagnes, par exemple, traditionnellement, on saigne les lapins, on égorge les coqs. Hein. Il y a angélisme à vouloir cacher ses visions qui hantent toute culture, comme le soulignait déjà Georges Bataille. Donc de toute façon, à mon avis, je discuterai bien sur le statut des corridas, mais uniquement, alors là je n'engage que moi, mais uniquement avec quelqu'un qui serait totalement végétarien, c'est-à-dire qui refuserait de manger de la viande, si vous voulez. Hein. Parce que lorsque l'on est contre les corridas et que l'on mange de la viande, on est hypocrite, on ne voit pas ce qui se passe dans les abattoirs, et finalement, vous savez que Franju a fait un très beau film là-dessus, un film effrayant, Le sang des bêtes, hein, sur la façon dont on tue les animaux dans les abattoirs. Donc je crois qu'il faut être logique. Si on est contre les corridas, alors soyons totalement végétariens. Voilà, alors j'espère ne choquer personne en défendant la tauromachie. Hein. De toute façon, s'il y a des réactions violentes, je m'attends à ce qu'elles se manifestent. Mais réfléchissez par exemple à ce qu'est la messe chez nous. Hein. Et la messe catholique au moins, la messe catholique, je parle pour les catholiques, elle est une sublimation du sacrifice humain. Hein. Et le prêtre, hein, c'est une figure sublimée du sacrificateur, puisque le prêtre dit à Dieu, hein, reçoit ce sacrifice, vous voyez. Hein. Donc, et il dit, voici l'agneau de Dieu qui porte les péchés du monde. Alors, des incas, je dirais, à la messe, il n'y a pas eu négation, mais symbolisation, transfert du monde du réel dans celui du théâtre. Hein. Le prêtre inca ouvrait la poitrine, effectivement, du sacrifié, il en arrachait le cœur et il l'offrait au soleil. Alors là, ça nous révulse, c'est horrible. Hein. Mais la messe, c'est la la même chose, mais si vous voulez, sublimée au sens freudien. Il y a un retour actuel, naguère, il y avait un retour des Incas dans le fameux jeu vidéo qu'on appelait Mortal Kombat. Et alors songez que c'est parce que le prêtre est un sacrificateur, le prêtre catholique, c'est un sacrificateur que l'Église catholique ne veut pas ordonner prêtre les femmes, car ce n'est pas le rôle d'une femme de sacrifier. Ce n'est pas par sexisme de principe. Alors actuellement, nous vivons des journées de la défense des droits des femmes. Quand certaines journalistes disent qu'il n'y a pas lieu de penser qu'une femme ne puisse pas être prêtre, eh bien, ils sont ignorants, ils sont incultes, puisque justement, il s'agit de sacrifices. Dans les sociétés traditionnelles, le rôle de la femme n'est pas de sacrifier, elle reçoit le sang. L'homme sacrifie, et la femme, par exemple, dans un vase, peut recueillir le sang. Et par exemple, en Corse, lorsqu'une femme veut faire la vendetta, eh bien, la vengeance, elle va se déguiser en homme, vous voyez. Donc les rôles sont bien répartis. Alors là aussi, tout à l'heure, j'ai pu prêter le flanc comme un Saint-Sébastien percé de flèches aux opposants à la tauromachie. Là, je peux prêter le flanc aux attaques des féministes. Peu importe. De toute façon, ce problème de la prêtrise, de l'accès à la prêtrise des femmes, qui à mon avis est impossible théologiquement, ne se pose pas dans le monde protestant. Parce que dans le monde protestant, il n'y a pas de sacrement comme l'Eucharistie, et donc il peut très bien y avoir des femmes pasteurs, puisqu'il s'agit simplement de transmettre la parole. Alors, l'Église catholique s'effraie même maintenant de cette idée de sacrifice, puisqu'elle euphémise la formule de l'agneau de Dieu qui porte les péchés du monde, en grec « o aeron », et en latin « quitolit », et elle euphémise cette formule en disant l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Alors, c'est un sens évidemment possible. Airein et toléré peuvent signifier enlever. Mais ce sens ne doit pas faire oublier le premier sens, porter sur soi. Et ce premier sens, à mon avis, est sûrement premier. Le sens de qui porte, c'est celui du bouc émissaire juif. Lorsque une communauté veut expulser la victime expiatoire, pharmakos en grec, eh bien, elle charge justement, en Israël ça se passait, de tous les péchés de la communauté, un bouc que l'on envoie au désert où il mourra de faim. Donc, le bouc émissaire, c'est la victime. Alors, l'hostie, qu'est-ce que ça veut dire hostie, hostie, hostia, c'est la victime. C'est la victime ancienne sacrifiée sur l'autel du sacrifice. Hostia, la victime, sur l'autel altare, en latin, c'est l'autel du sacrifice. Et les pères de l'Église ont toujours fait le lien entre l'immolation d'Isaac liée sur l'autel du sacrifice par Abraham et celle du Christ. Il s'agit de l'épisode de Genèse 22. Bon, évidemment, j'oublie volontairement la fin, avec la substitution d'une victime animale à Isaac, si vous voulez. Mais on a toujours vu, là-dedans, une des histoires racontant, justement, un sacrifice expiatoire. En grec, hilasmos aussi. Pour racheter, un rachat, lutron en grec, justement des péchés de la communauté. Donc il ne faut pas être angélique. L'agneau enlève les péchés, d'accord, mais comment? En portant sur lui ses péchés et en étant justement appelé à être sacrifié. Voilà, la symbolisation n'exclut pas la lucidité. Au contraire, elle implique la lucidité. Et c'est tout le reste qui euphémise, qui hypocritement ne veut voir que le résultat et pas le processus. Par exemple, si je dis que l'agneau enlève les péchés du monde, je vois le résultat justement du sacrifice de l'agneau. Mais je ne vois pas le processus. L'agneau qui porte en lui, qui porte sur son dos, pourrait-on dire, les péchés. Alors, si on désymbolise, si on refuse de voir tout ce que je viens de dire, qu'est-ce qui risque d'arriver si on perd les rites, si on oublie justement le poids de ces symboles? Eh bien, une espèce de légèreté. La déculturation actuellement est très répandue. Et finalement, on oublie la réalité même des choses. On oublie ce qu'est la vie. Ce qu'est la vie. Vous savez, je termine là-dessus, la tauromachie Hayashi, vous pouvez être, comment dire, hostile. Tout à fait. Bon. Si vous êtes végétarien comme Gandhi, alors là, ça se justifie totalement. Lorsque Gandhi visitait justement des pays européens, ce qui le scandalisait, Gandhi, c'était ces carcasses d'animaux suspendues à des crocs de boucher, justement, sanguinolentes. Hein. Pour Gandhi, c'était un spectacle insupportable. Mais il était végétarien. Alors, toute l'Inde est végétarienne. L'Inde hindouiste est végétarienne. Donc, voilà. Alors, là, oui, on est fondé à critiquer la tauromachie comme usage barbare. Mais sinon, non, ne nous aveuglons pas. Et puis, vous savez pourquoi plaint-on ce taureau, gros animal qui crie effectivement de souffrance? Et pourquoi est-ce qu'on ne plaint pas les poissons que le pêcheur à la ligne, les pacifiques pêcheurs à la ligne, hein, les paisibles pêcheurs à la ligne, ces poissons que le pêcheur va laisser s'asphyxier des longues minutes dans son panier, vous voyez, hein. Donc, ça doit être horrible. Ça, cette... Alors, il est vrai que le poisson ne crie pas. Hein. Vous voyez, tout dépend de l'état de nos organes. Hein. Si nous avons de la compassion pour un cheval qui souffre, nous n'en avons aucune pour une fourmi que nous écrasons sous notre talon, parce que nous ne la voyons pas. La fourmi, elle est trop petite, vous voyez. Hein. Donc, comme le disait Diderot dans sa lettre sur les aveugles, nos jugements moraux dépendent de l'état de nos organes. Alors voilà, bien écoutez, je vais m'en tenir là pour aujourd'hui. La semaine prochaine, nous examinerons ce qui se passe lorsque la désymbolisation va à son terme, les dangers même de la désymbolisation. Alors bonne réflexion d'ici là et rendez-vous à la prochaine émission.
Retrouvez Michel Théron sur son blog www.michel-théron.fr.